L'accent des autres, avec les médias francophones publics.
Et voici l'actualité de la semaine avec les partenaires des médias francophones publics, RFI, Radio-Canada, la Radio-Télévision Suisse, ICI et la RTBF. On va commencer avec cette décision en Suisse. La Confédération va finalement poursuivre son soutien financier à l'Organisation des Nations Unies en faveur des réfugiés palestiniens, Pierre-Anne Chauffat.
Après de premières attaques contre l'UNRWA en décembre dernier lors de l'examen du budget, la droite conservatrice a remis l'ouvrage sur le métier, mais le sort des Palestiniens et l'importance du droit humanitaire pour la Suisse ont finalement pesé plus lourd au Parlement.
Le Canada négocie actuellement avec l'Union européenne. Il s'agit, Karine Matteux, de conclure un nouveau partenariat militaire.
Oui, devant des menaces économiques et expansionnistes du voisin américain, le Canada veut diversifier ses sources d'approvisionnement en armement.
La défense, il en est question un peu partout aussi en Europe et notamment en France. On ne parle pas du retour du service militaire obligatoire pour l'instant, mais le gouvernement veut doubler les effectifs de la réserve opérationnelle des armées. Nous verrons comment les jeunes militaires français appréhendent cette nouvelle donne. Sur le continent africain, on retiendra cette semaine ce triple départ. Le Niger, le Burkina Faso et le Mali annoncent qu'ils quittent l'Organisation internationale de la francophonie, Nicolas Sûr.
Oui, ces trois pays dirigés par des pouvoirs militaires avaient été sanctionnés par l'OIF après avoir connu des coups d'État. Ils accusent l'organisation de partialité car elle s'était montrée plus clémente vis-à-vis de régimes plus proches de la France.
Enfin, elle a brillé au cœur de la francophonie pendant 25 ans. La comédienne belge Émilie Dequesne est décédée à l'âge de 43 ans. De nombreuses personnalités ont salué son talent et son courage face au cancer, Jacques Crémers.
Oui, Émilie Dequesne, c'était Rosetta, prix d'interprétation féminine à Cannes en 1999. Elle a tourné dans une quarantaine de films, remporté de nombreuses récompenses. Mais on retient aussi son combat courageux contre la maladie.
Il s'en est fallu finalement de 6 petites voix au Parlement suisse, 6 voix pour sauver finalement le soutien helvétique à l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Il s'agit donc de l'UNRWA, Pierre-Anne.
La Chambre du peuple avait suivi la proposition des conservateurs de l'UDC, faute de pouvoir exclure avec certitude tout lien de l'organisation humanitaire avec le Hamas, la Suisse devait retirer son financement. Mais cette semaine, la Chambre des cantons a finalement refusé par 25 voix contre 19 de ne plus soutenir l'UNRWA et pour y parvenir, la gauche a eu besoin du soutien en bloc des élus romands du centre-droit, à l'image de la fribourgeoise Isabelle Chassot.
Son adoption aurait des conséquences non seulement sur l'engagement et la crédibilité internationale de notre pays comme dépositaire des conventions de Genève, mais avant tout pour des centaines de milliers de victimes civiles, non seulement à Gaza et dans les territoires occupés, mais également en Jordanie, au Liban et en Syrie.
La situation des Palestiniens a donc joué un rôle déterminant, d'autant que le vote est intervenu au lendemain de la reprise des bombardements israéliens sur Gaza. Le directeur de l'UNRWA, le Suisse Philippe Lazzarini.
Je ne sais pas si le contexte a joué en faveur de ce vote, mais je pense qu'un vote négatif au lendemain d'une reprise de la guerre, d'une nuit absolument meurtrière, aurait été effectivement un vote incompréhensible.
La crédibilité internationale de la Suisse et son potentiel rôle d'exemple dans la défense du droit humanitaire étaient donc aussi en jeu.
Alors est-ce que la question est définitivement tranchée ?
Pas vraiment, puisque le Conseil a dans le même temps demandé au gouvernement de s'engager à l'international pour une autre solution que l'UNRWA, un message incompréhensible pour l'UDC Marco Chiesa.
Il y a quand même une méfiance par rapport à l'UNRWA. C'est un message chaotique à mon avis, parce que d'une part on dit qu'il faut continuer avec eux, mais d'autre part on dit qu'il faut la substituer dans le futur, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Faute d'une alternative crédible, c'est bien l'organisation de l'ONU qui poursuivra sa mission auprès des Palestiniens, avec le soutien financier de la Suisse.
Voilà pour cette aide finalement maintenue donc en Suisse. On va reparler défense à présent parce que le Canada et l'Union européenne se rapprochent d'un partenariat en la matière, Karine.
Le Canada se détourne de son allié historique, les États-Unis, pour participer au plan de réarmement de l'Europe qui compte investir des milliards de dollars en dépenses militaires face à la menace russe et au désengagement américain. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, précise que la collaboration avec des pays alliés, comme le Canada, va s'intensifier.
We also include, of course, in our thoughts all these like-minded countries from Canada.
La ministre des Affaires étrangères du Canada, Mélanie Joly, affirme pour sa part que des discussions sérieuses ont lieu pour que des entreprises canadiennes participent à ce plan de défense.
We need to make sure that we can be closer to the Europeans. We're over-reliant right now on the US.
Faut se rapprocher des Européens, dit-elle. Le Canada est trop dépendant des États-Unis.
Oui, et d'ailleurs, le nouveau Premier ministre du Canada s'est rendu en Europe juste après avoir prêté serment.
C'est symbolique parce que la première visite officielle du Premier ministre se fait de coutume aux États-Unis, mais pas cette fois. Il s'est plutôt rendu à Paris et Londres, rencontrer Emmanuel Macron, Keir Starmer et le roi Charles III. Écoutons Mark Carney.
C'est plus important que jamais pour le Canada de renforcer ses liens avec nos alliés fiables.
Le nouveau Premier ministre canadien, donc, Mark Carney, qui a l'intention de dissoudre très rapidement le Parlement et donc de déclencher, Karine, des élections.
Bien voilà, le successeur de Justin Trudeau se lancera dans une campagne électorale alors qu'il vient à peine d'être assermenté comme Premier ministre. Mais c'était attendu. Les partis politiques sont d'ailleurs en mode recrutement pour tenter de présenter des candidats dans le plus grand nombre de circonscriptions canadiennes.
Et en attendant la dissolution du Parlement du Canada, c'est prévu ce dimanche, on va encore parler défense en France, cette fois où, malgré le rapprochement États-Unis-Russie, il n'est pas question à ce stade d'un retour au service militaire obligatoire. Mais le gouvernement souhaite doubler les effectifs de la réserve opérationnelle des armées. Alors comment les jeunes militaires français appréhendent-ils cette situation? Ici, a sondé plusieurs sous-officiers à Nantes. Ils viennent de signer leur contrat d'engagement dans l'armée de terre. C'est un reportage d'Anne Bertrand pour Ici Loire Océan.
Vous êtes bien monsieur Daniel Clément, vous avez décidé de signer un contrat d'engagement en tant que sous-officier à l'école des sous-officiers d'actifs de Saint-Mexant pour une durée de 5 ans dans la spécialité artillerie, correct?
Correct. Ce n'est pas un hasard si Clément a choisi de se spécialiser dans les armes lourdes.
On parle aujourd'hui beaucoup, notamment en Ukraine, des canons César, dont la France a livré un certain nombre à ce pays. C'est vrai qu'on a du matériel quand même de qualité, d'autant qu'on parle beaucoup en ce moment de conflits de haute intensité.
Et ces menaces grandissantes n'ont pas fait non plus reculer Guéwen.
Non, au contraire, je trouve ça un peu exaltant parce que d'une certaine manière, on va se sentir utile par rapport au contexte géopolitique qui se passe dans le monde.
Ça ne vous fait pas peur ?
Un peu, mais c'est le risque du métier.
Même discours chez Clémence, la seule femme sur ses 9 sous-officiers fraîchement engagés.
Ça m'inquiète pas, c'est les risques du métier. Et puis, on va être préparé, on va être beaucoup accompagné. Puis c'est aussi une grande famille, l'armée.
Et c'est dans des moments comme cela qu'il faut se mobiliser, selon Lucien, ancien entraîneur de foot.
C'est important de ne pas forcément rester chez soi et attendre que ça se passe. Ou... Voilà, moi, j'ai eu l'envie de m'engager et de servir à la France.
Voilà, donc vous avez tous signé votre contrat d'engagement. La grande aventure commence dès maintenant.
Un reportage d'Anne Bertrand pour Ici Loire Océan.
L'accent des autres avec les médias francophones publics.
L'Organisation internationale de la francophonie qui entend promouvoir la langue française, la diversité culturelle, mais aussi la paix, la démocratie et les droits de l'homme vient de perdre 3 de ses membres. Et cela au moment où l'on célébrait la Journée internationale de la francophonie, c'était ce jeudi. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont fait savoir coup sur coup qu'ils quittaient l'OIF et c'est une page d'histoire qui se tourne pour cette organisation, Nicolas.
Oui, car l'organisation perd l'un de ses membres fondateurs, le Niger. L'OIF a vu le jour le 20 mars 1970 à Niamey, sous l'impulsion du président nigérien de l'époque, Amani Diori, l'un des pères de la francophonie institutionnelle. En décembre 2023, première rupture, le Niger est suspendu de l'organisation suite au coup d'État qui a renversé le président Bazoum 6 mois plus tôt. Aujourd'hui, il annonce donc son départ. Même décision pour le Burkina Faso et le Mali. Les 3 pays qui ont chacun connu un coup d'État et sont désormais regroupés au sein d'une alliance des États du Sahel ont déjà claqué la porte d'une autre organisation, la CEDEAO.
Ces 3 pays avaient donc été sanctionnés dans le passé par l'Organisation internationale de la francophonie et ils dénoncent ce qu'ils appellent le 2 poids 2 mesures de l'organisation.
Oui, l'OIF, disent-ils, au lieu d'accompagner nos pays dans la réalisation des objectifs légitimes des populations, s'est illustré par l'application sélective de sanctions. L'organisation, en effet, s'est montrée beaucoup plus clémente envers d'autres pays qui ont connu aussi des coups d'État. La Guinée, réintégrée à l'organisation en octobre dernier, alors que le pays n'a toujours pas de calendrier précis de fin de transition, ou le Gabon. Ces 2 pays sont beaucoup plus proches de la France, alors que le Niger, le Burkina et le Mali, eux, ont rompu avec fracas avec l'ancienne puissance coloniale.
Enfin, en Belgique, nous allons revenir un instant sur la disparition de la comédienne Émilie Dequesne. Elle avait tourné avec les Frères Dardenne, avec Lucas Bellevaux, Joachim Lafosse ou encore Lucas Daunt. Mais on retient aussi d'elle sa personnalité généreuse et son combat contre la maladie, Jacques.
Originaire de Chièvre, dans le Hainaut, Émilie Dequesne avait été révélée à l'âge de 17 ans dans le film Rosetta, un film pour lequel la comédienne remportera au Festival de Cannes le prix d'interprétation féminine. C'était en 1999.
Émilie Dequesne dans Rosetta.
Là déjà, je voudrais embrasser ma famille qui doit certainement me voir à la télévision. Je les aime très fort, je voudrais embrasser maman, papa, Audrey. Et tous les autres, ils sont hyper nombreux. Je voudrais remercier les frères, surtout, de m'avoir donné cette chance.
Les frères, ce sont les réalisateurs Luc et Jean-Pierre Dardenne, très émus par la disparition de l'actrice. Le film, le premier pour Émilie Dequesne, donnera son nom au contrat Rosetta des conventions de premier emploi pour des jeunes âgés de moins de 26 ans. Mais Émilie Dequesne, c'est encore une quarantaine de films et de nombreuses récompenses. C'est aussi une jeune femme qui se distinguera par son combat contre la maladie quand elle découvre qu'elle est atteinte d'un cancer de la glande surrénale en 2023.
Le cancer, c'est pas une maladie honteuse, premièrement. C'est déjà tellement dur, on se sent déjà tellement seul. Si en plus de ça, je dois me taire, ça parle hein, dans ce métier. Il était hors de question que des choses se disent, que n'importe quoi se dise.
De nombreuses personnalités ont salué son talent et son courage, comme l'actrice Déborah François.
C'était ma grande sœur et c'était notre grande sœur à toutes les filles qui ont eu la chance de tourner avec les frères Dardenne après. Donc évidemment, ça laisse un vide. Mais j'ai vraiment envie de me rappeler... Voilà, plus de sa lumière et plus de ce qu'elle nous a apporté. C'était un rayon de soleil, quoi, vraiment.
Émilie Dequesne avait 43 ans. Ses funérailles auront lieu mercredi à Paris.
Jacques Crémers et la RTBF pour refermer l'accent des autres cette semaine. Merci d'avoir été au rendez-vous et bien sûr à la semaine prochaine, même heure, même endroit.